Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Ça va, monsieur Oscar?
C'est loin. Et des jours, un meurtre par jour, c'est pas assez.
Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar?
Je continue comme j'ai commencé, pour la beauté du geste.
La beauté, on dit qu'elle est dans l'œil. Dans l'œil de celui qui regarde.
Le 31 janvier 2020, un conglomérat de producteurs et d'hommes d'affaires a acheté les cahiers du cinéma. C'est par ces mots que s'ouvrait en mars l'édito du rédacteur en chef, Stéphane Delorme. Parmi les actionnaires de la légendaire revue fondée en 1951, figurent désormais les producteurs des films de Jacques Audiard, de Lajli, d'Arnaud Desplechin ou de Rebecca Zlotowski, ainsi que les patrons de Mythic, Free, BFM TV, sans oublier un ex-président d'Endemol. Face à un tel tsunami d'intérêt, la quasi-totalité de la rédaction, à l'exception de trois de ses membres, a démissionné. Le fait même que des producteurs possèdent la revue brouillera la réception des films et créera une suspicion légitime. Les premiers communiqués des actionnaires évoquent le désir d'une revue chic et conviviale, recentrée sur le cinéma français. Réponse de Delorme. Les cahiers se sont toujours moqués du chic et du toc. La santé des cahiers du cinéma, c'est leur virulence, au service de la défense d'idées, de passions et de convictions, toujours ouvert sur le monde. Et l'équipe a toujours été attentive au cinéma français. Mais sans doute, ce n'était pas le bon cinéma français que nous avons défendu. Il faut recentrer les excentriques. Pour la planète cinéphile, c'est un avis de tempête. Pour moi, c'est une catastrophe, semblable à la fin de Mélancolia de Lars von Trier, quand l'astéroïde finit par anéantir la cabane de fortune qui abrite Claire, Justine et l'enfant. Certains matins chantants, je n'étais pas loin de penser qu'on tenait là le meilleur journal de France, le plus rigoureux en termes de pensée, d'exigence éthique et esthétique. Chaque mois, je lisais des entretiens solides avec des cinéastes parfaitement inconnus du grand public, des discussions sans déférence avec des personnalités reconnues, passées maîtres et maîtresses dans l'art si peu compris de la mise en scène, des pages et des pages d'analyses fouillées d'œuvres rares que je n'aurais jamais découvertes sans eux. Des coups de projecteur sur l'ombre des 100 métiers du 7e art ou la ligne tenue des programmateurs du festival de Pétaouchnok. Ainsi, bien sûr, qu'un regard sur le monde, politisé, à chaque notule ou presque, qui n'est pas dupe des violences et des fourberies de notre époque. Quant à l'écriture, chaque phrase était soignée, imprévisible, non conforme à ce style passe-partout qui mine la presse culturelle et assèche la langue et les imaginaires. Évidemment, c'était comme ça dans les cahiers du cinéma depuis des décennies, je le vérifierai, en tombant sur toute une collection des cahiers de 86-87 déposés comme par magie au pied de mon immeuble. Signe du destin, peaufinant sa dramaturgie, le dernier numéro de l'équipe en poste depuis 11 ans, leur chant du cygne, surgit en kiosque en pleine pandémie mondiale, en avril, pendant le confinement. Titre de une, qu'est-ce que la critique ? Plaqué sur une photo tirée du livre d'images de Godard, celle d'une mère en remous, tout en nuances de bleu, au crépuscule. À l'intérieur, un dossier de 35 pages sur l'art d'aimer, à propos des rôles, des devoirs et des affects de la critique cinématographique. Quand on aime la vie, on va au cinéma. Et aimer le cinéma, c'est le défendre contre les agressions du marché, contre les clichés, les complaisances, contre tout ce qui abîme notre sensibilité, écrit Stéphane Delorme, encore lui, citant bientôt notre héros Philippe Catherine. Vous êtes dur parce que vous êtes sensible parce que vous êtes dur. D'où l'envie, aujourd'hui, tenace, à l'heure de la réouverture des salles obscures, de lire et de commenter les éclats de cet article collectif aux dimensions fluviales, ce bouclier, cette tapisserie, cette promenade, en insistant sur la mystérieuse dimension littéraire de l'exercice critique. Comment les mots viennent aux critiques de ciné ? Réponse avec Jean-Philippe Tessé et Paola Reymann, respectivement rédacteur en chef adjoint et jeune recrue depuis 2 ans de la revue. Spoiler alerte, au cours de cette émission, nous ne parlerons pas du premier numéro des cahiers du cinéma Nouvelle Formule, présenté comme pensé et élaboré en toute liberté par la nouvelle équipe, sorti le 3 juin avec en couverture une image des derniers jours du monde des frères Larieux. Je souhaite cependant bonne route et bonne chance à ses consoeurs et confrères dans un contexte si fragilisé. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez sur Nova chaque dimanche de midi à 13h depuis 9 saisons. Bonjour Jean-Philippe Tessé, bonjour Paola Reymann.
Bonjour.
Bonjour.
Pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas et ou qui peut-être n'ont jamais lu les cahiers du cinéma, je démarre par une brève série de questions biographiques. Pourriez-vous puiser dans vos souvenirs de spectateurs, de spectatrices et nous dire quel a été, quels ont été le ou les premiers films sur lesquels vous avez écrit votre première critique publiée, disons, bien avant, je suppose, votre arrivée au cahier ?
Moi, c'était sur un site internet, c'était en 98, donc j'avais 20 ans et je me souviens pas du tout. Donc voilà, je me souviens de films du 99, 2000, découverte de Kiyoshi Kurosawa, par exemple, pour moi, qui était hyper importante, en 99.
Sur lequel vous avez écrit?
Ouais, mais c'était pas les premiers textes, les tout premiers textes, j'ai aucun souvenir, c'était des chroniques très brèves et je pense pas très très intéressantes. Alors moi, je faisais pas du tout l'étude de cinéma, j'étais en lettres et en philo, et en fait, je suis, voilà, le fait d'arriver à Paris, je travaillais pour une toute petite radio locale à Tours, quand j'étais étudiant encore là-bas, et quand je suis venu faire mes études à Paris, j'ai profité de cette petite radio pour aller aux projections de presse, c'est-à-dire au cinéma gratuitement. Donc c'était une arnaque, et là, le hasard fait que j'ai rencontré quelqu'un, qui m'a fait rencontrer quelqu'un, c'était en 98, donc c'était une sorte de balbutiement de l'ère internet, et je me suis retrouvé avec des gens qui venaient de lancer un site consacré à l'actualité culturelle, avec des modems 56K et les ordinateurs qui faisaient 55 kilos. Donc c'est complètement archaïque, mais on a commencé comme ça. Je me suis lié avec eux et puis j'ai commencé à écrire pour eux des chroniques sur les films qui sortaient, tout simplement, ce qui me donnait une vraie raison d'aller en projection de presse. Et puis voilà, de fil en aiguille, le site s'est développé. C'est l'époque où quand on avait un .com, on avait plein de sous de plein de gens complètement largués qui comprenaient pas et qui donnaient beaucoup d'argent. Donc on avait plein d'argent comme ça, donc on a pu développer ce site. Et puis ça s'est arrêté.
Site qui s'appelait
Il s'appelait il s'appelait Metropolis, puis Metromag, puis Urbuzz. Il a disparu au moment où tout le monde a à peu près disparu en 2002. Et à ce moment-là, j'ai enchaîné avec un autre site qui était un peu du même genre, mais qui existait depuis, qui était un peu plus établi, qui s'appelait Chronicart, où je me suis occupé de la rubrique cinéma. Et puis la même année 2002, j'ai envoyé les textes au cahier et je suis rentré comme ça. Voilà, la fin. Enfin, j'ai commencé à écrire mon premier texte, c'était en mars 2003.
Et vous, Paola ?
Alors, moi, c'est plus simple parce que c'est plus récent. Mon premier texte, c'est pour les cahiers, en fait. Et donc, le premier texte dans le cahier critique, c'était sur un film de Hong Sung-soo qui s'appelle Grâce, qui est sorti, il me semble, 2018-2017. Il n'y a pas vraiment de formation critique. Hein. J'ai fait une fac de cinéma. J'ai rencontré tôt les cahiers en tant que lectrice. Et ensuite, en tant que stagiaire, j'ai fait un stage au cahier du cinéma.
Ouais.
Voilà, et de fréquentation, même après mon stage, j'ai continué à fréquenter l'équipe et puis j'ai décroché un texte après 5 ans. Voilà, mais.
Sur ce film de Hong Sang-soo ?
Sur ce film de Hong Sang-soo qui me tenait énormément à cœur, voilà.
Ouais.
J'avais envie d'écrire pour la première fois sur ce film et Stéphane Delorme,
rédacteur en chef,
me l'a accordé et j'en étais très heureuse de sa confiance. C'est un film qui est assez triste, Hong Sang-soo, comme le sont ces derniers, donc un cinéaste coréen qui fait des films, on va dire, pour peut-être donner des repères, qui pourraient évoquer Romère, par exemple, mais les derniers sont de moins en moins légers. Et donc, c'était un film assez dur et je me souviens voilà, que je terminais le texte en parlant d'un poète américain que j'aime beaucoup, Walt Whitman, et ça a scindé quelque chose. J'aime bien les textes qui parlent de cinéma, mais aussi de poésie. De mémoire, voilà.
Avant d'y entrer, que représentaient pour l'une et pour l'autre les cahiers du cinéma en tant que revue, mais aussi sur le plan de l'écriture critique, de l'écriture cinéphile ?
Je pense qu'en ce qui me concerne, ça concerne que moi, parce qu'il y a souvent aussi un coup de foudre un peu avec à la fois la cinéphilie cahier et l'écriture cahier. Et quelqu'un comme moi qui suis arrivé vraiment par hasard au cinéma, c'était pas du tout quelque chose à quoi je me destinais. Donc j'étais ignare et j'avais envie d'apprendre. Et j'ai vite compris que les cahiers c'était quelque chose d'important. Et puis j'ai essayé de lire. J'ai fait aussi ce que je pense pas mal d'étudiants font ou faisaient, c'est-à-dire je me suis abonné aux cahiers et à Positif, les deux grandes revues. Et j'ai senti tout de suite que ma maison naturellement c'était les cahiers, par la manière dont on écrivait et aussi par les films qui étaient défendus. Et donc tout de suite j'ai ressenti une empathie avec l'écriture elle-même au-delà des goûts des films, je voyais pas tous les films dont il était question, mais j'ai senti que ce plaisir du texte comptait beaucoup, plus que dans une revue, à mon avis, très sage et avec des films qui m'intéressaient moins et puis une manière d'écrire qui m'intéressait moins, comme celle de Positif. Je sentais que dans les cahiers, il y avait une place pour l'exercice de la critique comme forme d'écriture. Ça me parlait une langue qui n'était pas celle que je pouvais lire ailleurs. Et puis, et c'est à l'époque où je connaissais pas encore les textes importants de Serge Janet, de Bazin, etc. Et finalement, en creusant l'histoire des cahiers elle-même, c'est-à-dire en ne m'arrêtant pas au numéro qui venait de sortir, mais en remontant dans le passé, en lisant les textes des gens qui ont fait la revue, j'ai toujours senti même par-delà les désaccords, et c'est ça que j'aime bien aussi au cahier, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de partager les avis, mais on sent quand même quelque chose qui est en commun. Qui est une manière de penser les films qui est commune et qui est un socle commun au cahier auquel on ne peut pas par-delà les divergences entre les périodes, il y a toujours ce socle commun, même des textes qu'on n'aime pas, même des gens qu'on n'aime pas, les critiques qu'on trouve pas bons, etc. Il y a quand même toujours ce truc en commun, ce savoir secret qui nous unit et qui fait que c'est une histoire qui se poursuit depuis 70 ans.
Paola.
J'ai découvert les cahiers assez jeunes dans mon adolescence et c'était le texte bien sûr, mais enfin, également aussi les images, c'est-à-dire que je feuilletais cette revue que je trouvais très belle et puis je voyais des images de films inconnus dans lesquels je pouvais un peu me perdre et des textes qui, encore une fois, mêlaient donc ce plaisir du texte qui pouvait mêler des références à la peinture, à la musique, à la littérature et ça me fascinait. Je me souviens, je pense, un des premiers textes qui m'a marqué. C'était un texte de Bonitzer sur À nos amours de Piala.
Pascal Bonitzer.
Voilà, de Pascal Bonitzer.
Qui est devenu metteur en scène depuis.
Tout à fait. Et qui comparait donc l'activité de Piala peintre à Piala cinéaste dans À nos amours, et, en parlant de Bacon, Francis Bacon. Et ça m'avait marqué, je pense que c'était un des premiers textes forts. Et ça, c'est le premier temps. Et je pense qu'il y a eu un second temps où, un peu plus âgé, j'ai découvert les cahiers des 10 dernières années. Et c'était avec le numéro sur Faust, qui date de 2011, il me semble, ou 2012. Voilà.
Crois,
ouais. Et c'est un des premiers numéros que j'ai acheté. Parce que finalement, moi, j'avais trouvé des cahiers comme ça au marché Opus, quoi, j'avais acheté. Et ensuite, je me suis mis à acheter les cahiers en 2012 avec ce numéro sur Faust, qui était un film de Sokourov, le cinéaste russe. Et voilà.
Quand vous arrivez dans la revue, l'un et l'autre, à des années donc différentes, dès les premiers mois, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous conseille en termes d'écriture? Est-ce qu'il y a un style cahier duquel il ne faut pas trop se détacher? Comment est-ce qu'on harmonise les personnalités?
Il n'y a pas l'envie d'harmoniser forcément, je ne pense pas. Enfin, moi, personnellement, quand je suis arrivé, personne ne m'a donné de conseils, de dire voilà, il faudra que tu écrives comme ci ou comme ça. Je pense que déjà aussi, on progresse en écrivant. À chaque fois, enfin, c'est vrai, quand on nous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour. On recevait, ben, moi, quand j'ai travaillé au cahier comme rédacteur en chef adjoint pendant plus de 10 ans, on recevait beaucoup de gens qui écrivaient des critiques et qui vous demandaient des retours, etc. Et finalement, le conseil, c'est d'écrire, quoi, tout bêtement. Et on trouve naturellement une manière de s'exprimer, hein, donc ce qui correspond aussi à un style. On le trouve finalement par l'exercice lui-même. Je pense qu'il n'y a pas de rien de préconçu, il y a pas de c'est pas quelque chose qui s'enseigne sous la forme d'une école, enfin, ou d'une académie, au sens où il y aurait des règles à intégrer, à digérer, à reproduire. Et puis au contraire, enfin, je pense que dans les cahiers, notamment ces dernières années, il y avait une variété d'écriture qui faisait aussi la richesse de la revue et qu'on ne cherchait pas du tout à contrarier, bien au contraire.
Il peut y avoir une exigence et même des conseils pour des gens qui démarrent sur des amorces de texte, sur savoir conclure, sur savoir organiser sa pensée, sur établir, je ne sais pas, une argumentation. Non ?
Non, justement.
Non, pas trop comme ça.
Ouais, c'est un peu le grand saut, en effet, parce qu'il n'y a pas de consigne. Et c'est ce que j'apprécie, hein, parce que moi, ça aurait été terrible si on m'avait dit une amorce, ça commence comme ça, un texte, ça se termine de cette façon. Je connais des gens vraiment à qui on dit, mais c'est, je citerai personne, hein, mais à qui on dit un texte, c'est un peu comme un hamburger, alors ça se construit comme ça. Plus dans le milieu des journalistes, je pense, culturels, mm-hmm. ou que de la critique. Et alors moi, je ne m'identifie pas, ça m'aurait paralysée, quoi. Mais mm-hmm. c'est paralysant qu'il n'y ait aucune consigne, mais finalement, on se façonne. Enfin, un texte à écrire, c'est très difficile, il n'y a pas de clé de mode d'emploi, et c'est un peu une lutte à chaque fois, mais c'est bien qu'il n'y ait pas de passage obligé, de modèle, quoi.
Est-ce que vous aviez, pour apprendre ce métier, au-delà de la pratique régulière, des livres de référence, c'est-à-dire des recueils d'articles de grands anciens?
Il y a quelque chose qui a été important pour moi, c'est Jean Douché, qui a été critique au cahier dans les années 50-60 et qui ensuite est resté un compagnon de la revue plus ou moins proche pendant longtemps. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est disparu très très récemment et qui a été aussi pas mal biographiquement, qui m'a, comme d'autres, qui m'a aussi fait un peu la courte échelle pour aller au cahier. C'est-à-dire qu'avant d'envoyer des textes au cahier, je l'avais rencontré, je lui avais fait lire quelques textes, on s'était vu, il m'avait encouragé en lui disant, bon, allez, faut passer aux choses sérieuses, faut envoyer les textes au cahier, quoi. Donc, et c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup faire, en fait, faire le passage, faire entrer des gens jeunes au cahier. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, avec des critiques très importants, dans les années 60. Il avait même contacté Serge Danet avant que Danet écrive au cahier pour lui proposer. Danet avait dit qu'il se sentait pas prêt. Il était rentré dans la revue un peu plus tard. Mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, en fait, mettre le pied à l'étrier à des gens très jeunes. Et j'avais pas échappé à la règle. Et c'était, j'en suis très, très reconnaissant, naturellement. Et il m'avait encouragé, voilà, à écrire à la rédaction à l'époque et à entrer au cahier. Et je pense que pour moi, quand même, plus que ces textes, c'est un livre qui est particulier, c'est son livre sur Hitchcock. Alors, il écrit très peu de livres. C'est quelqu'un dont l'enseignement est essentiellement oral, c'est-à-dire qu'il a parcouru les salles pendant des décennies pour dispenser un enseignement essentiellement oral. Et il a écrit, donc il y a des textes, des recueils de textes, mais il a écrit aussi un livre sur Hitchcock, qui est un livre complètement ésotérique, assez fascinant, et qui, pour moi, a été quelque chose de l'ordre de la révélation aussi, parce que j'avais le sentiment, je connaissais les films d'Hitchcock, je voyais très bien ce qu'on pouvait en dire, mais lui, il arrivait avec une analyse du café au lait, du rôle du café au lait dans tel film de Hitchcock, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et il était là à nous parler du plan démoniaque, de choses qui étaient totalement... Il était féru de sciences occultes à l'époque, et donc c'était totalement ésotérique. Et en fait, peu importe ce qu'il disait, ce que ça m'a appris, c'est simplement que tout était permis. On pouvait y aller, quoi. On pouvait y aller à partir du moment où on aimait l'objet de notre quête, et qu'il fallait pas se réfréner, et que le film était à nous. Au moment où on écrivait, il était pour nous, le film.
Alors, je dirais évidemment Serge Danet, qui a été très important, surtout un livre comme Persévérance, mais qui est un livre plus personnel, peut-être même, où voilà, il parle de sa vie, de son itinéraire, comme il dit, de cinéphile, donc de cinéphile. Et donc ça, c'est un livre très important. Sinon, moi, je pense à Luc Moulet, qui est donc cinéaste et qui a écrit au cahier très jeune et qui m'aurait appris une chose, c'est l'esprit de légèreté et de pas se prendre au sérieux quand on est critique de cinéma, quand on critique des films, avoir cet humour, cette légèreté. Et je sais pas du tout si j'y suis parvenue, mais en tout cas, j'essaye de garder ça dans un coin de ma tête quand j'écris.
Nova Book Box, l'insoutenable légèreté de lire.
No, thank you very much. It was really interesting with the painting.
Maybe we can sing a song for you and for your family.
Yes.
Just to say thank you.
Why not? Okay, it will be nice. Okay, I will arrange here.
So, lass uns doch einmal wenigstens höflich was zu Ende bringen. Okay. Mesdames et messieurs,
attention à toute lumière, nous avons un programme.
Mon secrétaire, and I, we will sing a song for you. Give an applause to the fabulous Whitney Snook.
Never found anyone who fulfill my needs, a lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live.
Fait d'une perruque au burn qui viendrait nous sortir d'un boulot stupide et épuisant basé sur la compétitivité et la performance, un père idiot qui nous inciterait, entouré d'inconnus ou de proches perdus de vue, à chanter à moitié faux, c'est-à-dire comme avant, avant le temps de l'entreprise, des responsabilités, des sourires de façade, une reprise, malgré tout spectaculaire, de Whitney Houston sous le pseudonyme de Whitney Schnook. Vous venez d'entendre un extrait du film Tony Erdmann, écrit et réalisé par l'Allemande Maren Hade. C'était en 2016. Excellente comédie, soutenue en son temps et même au moment de tirer le bilan des meilleurs films de la décennie par les cahiers du cinéma. Scènes et films qui peuvent agir comme un remède pour ne pas justement se prendre au sérieux, ainsi que le conseil mes deux invités du jour, Jean-Philippe Tessé et Paola Rehmann, deux membres de l'ancienne équipe des cahiers du cinéma, partageant dans cette émission leur expérience sur cette mystérieuse écriture, la critique de cinéma.
Vous n'avez plus le temps de lire. Nova chausse ses lunettes et vous ouvre les portes de sa très très grande bibliothèque.
Dans la plupart des journaux, les articles sont relus par la rédaction en chef et parfois ils sont réécrits, coupés et ou renvoyés à leurs auteurs. Est-ce que c'était le cas au cahier ?
Ça dépendait des textes. Et c'était un travail passionnant. Moi, je sais que j'adorais faire ça. Vraiment, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'était un petit peu comme... J'avais presque une position de critique de film, mais de critique de texte. Mm-hmm. C'est aussi de voir là où ça allait pas, ou s'il manquait des choses, ou si au contraire, le texte ne marchait plus à un moment. Et puis après, il y a aussi les contraintes qu'il faut faire avec, hein, c'est-à-dire les contraintes de format.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire qu'on avait aussi les autres, on avait quand même pas mal d'hurluberlus adorables que dans la rédaction, et on avait quand même certains, où quand on leur demandait 10 000 signes, on en recevait 25, ah ouais. 25 000. Donc bon, ça, c'était quand même compliqué. Mais sinon, bon, à peu près, les textes, les formats étaient relativement respectés, mais il y avait aussi, enfin, je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai travaillé pendant très très longtemps, même avant les cahiers. Et donc, du coup, il y avait une habitude du travail entre lui qui m'envoie le texte et moi qui vais le réceptionner, le retravailler, lui faire relire. Et ça se passait en bonne intelligence, ça se passait toujours bien. Et pour moi, c'était un des grands plaisirs aussi, parce que c'est un vrai travail d'écriture et de réécriture.
Tant que c'est fait dans le respect, moi, je trouve ça génial, parce que ça préserve déjà, ça permet de garder une certaine humilité, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas un texte et puis il est parfait, puis parfois on n'a pas de recul sur un texte. Voilà, donc c'est bien de pouvoir avoir cet échange-là, ce dialogue, et puis d'avoir une rédaction, en fait, où aussi on peut se rendre sur place. Enfin, moi, je sais que c'était pas tellement des ping-pong par mail que je me rendez sur place, voilà, sur la table, on pose le texte sur papier et puis on le travaille un peu, vraiment, presque, c'est presque un travail manuel, quoi, de dire là ça va pas. Et ça, c'est important, ça reconnecte aussi avec ce rapport au papier, c'est-à-dire que le texte au final il va être imprimé, il va être lu. Et quand on écrit sur Word, enfin, ou je ne sais sur quel logiciel, on peut oublier. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Après, un texte, parfois, c'est difficile. Une fois que ça, il est arrivé, c'est un bloc. C'est difficile. On ne sait pas toujours comment, par où l'attaquer. Et puis on lui trouve sa propre musique, sa musicalité. Donc il faut changer des notes par-ci par-là. Enfin, moi je trouve ça assez fascinant de réécrire un texte. Une fois qu'il est fait, on peut faire tout ce qu'on veut avec le texte. Je trouve que le plus difficile, c'est de l'écrire.
La pratique du critique, c'est aussi tendre l'oreille, traquer la mélodie, peut-on lire dans votre dossier publié en avril. Nous allons faire une pause musicale. Y a-t-il une bande originale emblématique des 10 ou 11 dernières années, si possible méconnue, que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs?
À brûle pour point. Enfin, c'est drôle parce que j'ai réécouté des musiques de films récemment. Il y a vraiment une musicienne qu'on a, enfin, que je trouve qui est très marquante parce qu'elle est très jeune, elle vient d'arriver, c'est Mika Levy. Mm-hmm. Qui a fait la musique de Under the Skin et de Jackie, mm-hmm. et qui sont deux réussites formidables. Ça peut être une bonne entrée, parce qu'en plus, c'est quelqu'un. On avait fait un numéro sur la musique, et il y avait eu un texte sur elle aussi. Donc ça peut être une bonne entrée.
C'est une excellente idée. La musicienne britannique Mika Levy et sa sidérante BO pour le film Under the Skin de son compatriote Jonathan Glazer. C'était en 2013, film dans lequel Scarlett Johansson interprète une extraterrestre qui sillonne l'Écosse de nuit au volant de sa camionnette pour détruire des hommes qui cherchent à la séduire. Amateurs et amatrices de scénarios imprévisibles, non formatés et de mise en scène remarquables, notamment sur le plan plastique, montez à bord.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Je suis toujours en compagnie de Paola Reymann et Jean-Philippe Tessé, deux des membres de l'équipe démissionnaire des Cahiers du Cinéma, qui quittèrent le navire en avril dernier pendant le confinement. Venons-en à votre dernier numéro, celui d'avril, intitulé en couverture « Qu'est-ce que la critique ?». On y trouve un dossier de plus de 30 pages sur le rôle et les multiples formes que peut prendre cet exercice si précieux quand il est bien fait, la critique de cinéma. Dans ce dossier, il y a donc ce texte que vous avez écrit à 15, j'en ai relevé de nombreux passages, j'aimerais vous entendre les commenter, soit longuement, soit d'une phrase lapidaire, c'est comme vous voulez. Le premier extrait est très simple, le critique cherche dans le cinéma un secret.
Oui, ça c'est... Non, effectivement, il y a toute une mythologie aussi du secret cinéphile. Ça fait penser à un entretien qu'on a publié de Jacques Rivette qui s'appelle « Le secret et la loi », où il y a à la fois un secret dans les films eux-mêmes et puis un secret à trouver en soi, mais c'est finalement ce qui se passe quand on se confronte à une œuvre d'art. On cherche toujours quelque chose, on ne sait pas forcément quoi, mais on cherche quelque chose qui a un secret et qui fait, enfin, pour ce qui est des films, qu'on cherche à savoir pourquoi tel film nous plaît et pas tel autre, par exemple.
Paola.
Oui, et un secret qu'en même temps, on ne cherche pas forcément à élucider. Un des critiques cite Manny Ferber, qui est un critique américain et un peintre, qui dit que le travail du critique, c'est aussi d'accroître le mystère. Donc le mystère, c'est une forme de secret. Donc c'est ce rapport-là au secret, c'est de le trouver, mais pas forcément de le mettre à nu, de le dévoiler non plus.
Pour certains, quand on commence à écrire le texte, ça y est, on sait ce qu'on va dire, et il suffit juste de déplier son idée, une idée qui s'est forgée après la projection. Et pour d'autres, moi j'en fais partie, le texte sert aussi à élucider ce qu'on a ressenti. Et le texte doit nous surprendre, on est le premier lecteur de notre propre texte, et on doit être surpris aussi. Et parce que l'écriture va nous accompagner pour comprendre ce qui s'est passé. Quand j'écris, j'ai une feuille blanche et je ne sais pas du tout ce que je vais écrire. Évidemment, j'ai quelques idées, j'ai quelques impressions, mais je sais que les choses les plus importantes, finalement, je les ignore tant que j'ai pas commencé à écrire, tant que j'ai pas terminé le texte plutôt.
Ça peut être le titre aussi, trouver un titre qui résonne par rapport au film, ça peut aider, c'est la première entaille, ça peut déterminer beaucoup de choses. Je pense, nombreuses fois, je me suis dit, moi je trouve le titre en premier, que mon texte aurait été complètement différent si le titre avait été autre.
Chacun vraiment, entre ceux qui font quelque chose d'une traite, ceux qui jettent des blocs. Moi, je sais que je commence toujours par la fin le titre.
Et comment on fait pour commencer par la fin, excusez-moi?
Je sais pas, en fait, j'ai pas l'explication, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça. Alors, quelque part, le texte doit arriver là. Mais ce qui m'intéresse, c'est le chemin qui nous y amène, quoi.
Je vais lire un extrait plus long qui, lui, s'appuie sur une métaphore balnéaire. L'écriture critique procède en deux phases. Elle conjugue deux temps, celui de la mémoire et celui de l'imagination. Une fois la projection terminée, nous sommes à marée basse, les pieds dans le sable, à collecter les coquillages laissés par la mer. Ces crustacés, ce sont les images qui restent, les impressions diffuses, les intuitions et les idées éveillées. Mais cette phase de ressouvenance, de repli vers le film, peut s'avérer infructueuse. Certains films ne se laissent pas approcher simplement par un effort de mémoire. Ils laissent des plages drainées où il est difficile de prendre appui. C'est seulement parfois l'étendue du littoral qui nous persuade. Là-bas, il doit bien se trouver quelque chose. L'écriture plus tard ratisse et rassemble ses éléments, en laisse sur la plage, tisse des correspondances, elle nous met face à un film comme au-devant d'une maison inconnue qu'il faut traverser en entrant par une porte et en sortant par une autre. Il s'y trouve une quantité changeante de pièces, des portes closes et d'autres ouvertes. Le critique est toujours persuadé qu'il parviendra à toutes les parcourir. Heureusement, les grands films laissent toujours le sentiment, l'écriture terminée, d'avoir oublié une chambre quelque part.
Mais une idée que j'aime bien, qu'on aurait pu aussi introduire pour parler de la pratique de la critique, c'est celle de l'écoute flottante, de l'attention flottante des psychanalystes. C'est-à-dire cette idée que donc le psychanalyste qui écoute son patient et qui doit avoir une forme d'écoute flottante, c'est-à-dire à la fois une grande attention et en même temps laisser échapper quelque chose quelque part, comme cette pièce qui pourrait être verrouillée sans qu'on ait pu la parcourir comme les autres. Et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui structure aussi, et ça rejoint aussi la surprise qu'on a parfois à écrire, qui fait que notre attention est complète quand on est au cinéma. Et d'ailleurs, il y a une belle phrase de Derek Jarman, qui est un cinéaste anglais, qui est cité dans le numéro, où Jarman dit qu'il a envie d'être le noyé du premier rang, c'est-à-dire d'être subjugué par le film. Donc on est vraiment comme ça dans un rapport d'être submergé par le film, de submersion par le film. Et en même temps, cette écoute flottante, elle nous réserve quelque chose, elle emmagasine dans la musette quelque chose qui va peut-être jaillir sans qu'on le sache au moment de l'écriture. Et c'est ça qui est très beau, et c'est ce qui fait aussi que c'est aussi la différence entre la critique et, je pense, l'exercice plus universitaire de recherche, où on n'a pas de place pour l'écoute flottante. Il faut que l'écoute soit à marée haute en permanence, hein. Il faut tout cerner. Et dans la critique, on a aussi cette liberté, qui est une liberté littéraire, de laisser affleurer d'autres choses qu'on n'aurait pas attrapées avec notre épuisette consciemment, mais qui sont là, qui flottent un peu autour de nous, et que l'écriture peut restituer parfois à notre vraie surprise.
Alors moi j'ai mauvaise mémoire, et pour un critique c'est pas vraiment un atout, mais je pense qu'il faut en faire finalement un avantage, un jeu, c'est-à-dire que parfois des faux souvenirs de films peuvent dire quelque chose d'intéressant sur un film. Et finalement, c'est une construction, c'est une création qui s'est jouée. C'est pas exact, c'est pas une mémoire photographique d'un plan, mais dans ce que ça donne à comprendre de ce qui s'y joue, ça peut être tout aussi intéressant pour parler du film et pour comprendre le film.
Est-ce que vous prenez des notes pendant ou après la projection ?
Jamais, non.
Ah non.
Non ?
Alors... Jamais. D'ailleurs, souvent, je vois en projection de presse des critiques qui ont... Une fois, j'ai vu un critique avec une lampe frontale pour prendre des notes pendant la projection de presse. Je me suis dit, c'est qui cet hurluberlu ?
Non, je pense qu'au contraire, le temps de la projection, c'est le temps de la projection. Il faut laisser, justement, et pas être dans un rapport à l'écriture, quel qu'il soit, même la prise de notes. Il faut, au contraire, être comme Jarman, être que la vague déferle sur nous et garder ce temps-là pour la projection. Et après, vient le temps de l'écriture. Mais c'est vrai qu'en même temps, même la prise de notes post-projection, non plus.
Fixer un dialogue, pour fixer une expression qui serait clé, je ne sais pas, la couleur d'un vêtement, vous êtes ému parfois par un geste, un baiser, un tableau, un paysage.
Mais si on est ému, on se souvient.
Voilà,
ouais, ça marque la mémoire et peu notes, importe s'il y a des.
Si on a besoin de notes, c'est que c'est mauvais signe. C'est, que c'est, pas si, c'est peut-être pas si important que ça.
Toujours dans ce dossier, cette définition de l'acte d'écrire, c'est refuser d'être colonisé par la logique hégémonique de la communication qui fallacieusement fait croire à la transparence du langage, à l'évidence lisse de son sens commun, alors qu'elle n'en est que la face autoritaire.
Il y a un mot que j'aime bien, qui revient, je pense, dans le dossier, c'est l'idée de le verbe s'interposer. Et je pense que la critique, c'est un discours d'interposition, c'est une manière de s'interposer dans d'autres discours, à la fois le discours marchand, le discours publicitaire, le discours promotionnel, le discours du cinéaste lui-même. Et il y a un paragraphe sur ça, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans un film, c'est pas le vouloir dire du cinéaste, c'est ce que raconte le film, c'est ce que le film nous dit, c'est pas la même chose.
C'est pas l'entretien proposé par le service de communication du film, du cinéaste lui-même, en préambule dans le dossier de presse. Aucun intérêt.
Je lis jamais les entretiens dans les dossiers de presse. Enfin, je lis jamais les dossiers de presse de manière générale. Mais non, c'est à la fois, évidemment, l'entretien avec le cinéaste, c'est fait partie de l'arsenal critique. C'est un geste critique très fort. C'est passionnant. J'adorais faire ça. Et on en a fait beaucoup. Et en même temps, il y a toujours une distance à garder parce que ce qu'il veut raconter, ce qu'elle veut raconter, le ou la cinéaste, finalement, importe et n'importe pas au moment d'écrire sur le film. Et je pense que l'idée de la critique comme discours, comme manière de parler qui s'interpose, elle s'interpose dans tout ce carrefour gigantesque des discours sur l'art, sur les œuvres et sur la vie, la société qu'on a en permanence, où se mêlent des discours intéressés, comme le discours promotionnel, marchand, et des discours qui peuvent paraître beaucoup plus innocents, comme celui du créateur lui-même, par exemple. Mais on a toujours besoin de brancher cette autre manière de parler qui est celle de la critique et de s'interposer. Et de s'interposer aussi entre le vouloir dire du cinéaste et le spectateur. C'est aussi une manière de se protéger, là, d'avoir ce réflexe de critique, de se protéger, y compris du vouloir dire du cinéaste. Et c'est vrai que ces dernières années, on s'en est beaucoup pris à des cinéastes qui pensaient leurs films comme des programmes à dérouler avec des choses à dire, à faire entendre, etc. Et on avait envie de dire non, j'interpose une autre manière de parler qui est une autre manière d'écouter les films. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ce que toi, cinéaste, tu as envie de dire. Ce qui m'intéresse, c'est ton film, c'est ce que ton film me raconte.
C'est presque ce qui t'échappe.
Précisément, ce qui t'échappe. Ouais. Voilà, ce qui va contre ton discours, ce qui va à côté de ton discours, ce qui va en contrebande, et que l'écoute flottante, justement, permet de ramasser un peu comme les coquillages sur la plage.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. We'll be right back.
Night. Ce thème effrayant signé John Carpenter, ce grand cinéaste américain de l'effroi, également, comme vous le savez, compositeur souvent de ses propres bandes originales qui rendirent ma boule nombre de musiciens comme Rob, R, Kavinsky, Turzi ou Étienne Jomet. Ce thème fut repris l'an passé dans le saisissant Bacurau, cette dystopie signée par les Brésiliens Kleber Mendoza Filho, ancien critique de cinéma, et Juliano Dornelles. Le film a reçu le prix du jury à Cannes en 2019. C'est un thriller d'anticipation sur les fractures du Brésil contemporain, une allégorie de la menace populiste internationale, un conte vital sur la force de la communauté, soutenu avec force par l'ancienne équipe des Cahiers du cinéma qu'il avait mis en couverture. Deux de ses membres sont avec moi dans le studio de la Nova Book Box, Jean-Philippe Tessé et Paola Reymann, que je fais réagir à divers extraits de leur numéro d'adieu intitulé « Qu'est-ce que la critique ?», sorti en avril pendant le confinement. Je parle d'ancienne équipe car si vous avez loupé le début de cette émission ou l'information, il y a quelques mois, toute l'équipe, sauf trois de ses éléments, a démissionné suite au rachat du titre par un alliage d'hommes d'affaires et de producteurs de ciné.
Nova Book Box, l'insoutenable légèreté de lire.
Le critique se doit d'avoir sa liste de mots interdits, de tics à éviter. C'est dans votre dossier également. Quels étaient les vôtres ?
On n'est pas les meilleurs juges pour ça, on en a sans doute. Mais c'est vrai que nous, avec Stéphane, de manière un peu amusée, on faisait la chasse, mais on n'avait pas beaucoup de gibier, heureusement, à certains mots comme ça qui étaient interdits.
Allez-y.
C'était, je sais pas, de bonne aloi, par exemple. C'est vraiment un mot.
À l'aune de.
À l'aune de, ou jaugé. C'est des films. C'était un peu une blague un peu entre nous, mais en même temps, on en a. Heureusement, comme je disais, il n'y a pas vraiment de gibier, mais c'est des choses qu'on pouvait lire ailleurs qui nous agaçaient un peu. Et c'est vrai que c'était. Il y avait des mots interdits. Quoi.
Bah oui, en fait, puisque c'est un peu dans l'air du temps, je veux dire, certains mots, c'est un peu comme des virus, quoi. Ça se chope, et c'est vrai, et on les a, ils sont en bouche comme ça, parce qu'on les a lus quelque part, et finalement, c'est des béquilles, et je pense que le texte est toujours meilleur si on apprend à marcher tout seul, quoi, sans les béquilles.
Le bon film est celui qui désarçonne, qui fait tomber le critique du petit cheval de ses habitudes, et le force à suivre, loin, fasciné, passionné, la tête vrillée par mille pensées et sensations nouvelles. Alors le texte viendra comme le compte-rendu sincère de ce qu'il s'est passé et l'effort inépuisable pour en comprendre les raisons. Le mauvais film est celui qui fait bouillir, qui donne l'envie d'en découdre et de refuser. Vous dites aussi, et tout le monde, parmi les gens qui nous écoutent, l'a déjà ressenti, il existe de bons mauvais films, bons parce que ce qui y est raté ou problématique met en mouvement l'imagination, le manque nourrit l'éclosion d'autres désirs, d'autres horizons. À propos des mauvais films, vous enfoncez le clou un peu plus loin. Il est bon de reconnaître ses ennemis. Toute politique critique passe par le repérage de ce qui est néfaste, irrecevable, insupportable au sein même du cinéma. Il faut donc lancer des alertes et des appels à la guerre civile. L'ennemi n'est pas le cinéaste, ce sont ses images. Le critique doit savoir être iconoclaste, brûler en feu rhétorique tel plan, piétiner à coups de parole tel raccord, dire son hostilité en détail.
C'est un texte vraiment collectif. Il y a plein de plumes, 15 auteurs. Donc on se reconnaît plus ou moins. C'est vrai que sur la rhétorique un peu guerrière, je pense que personnellement, je me reconnais moins. Mais par contre, vraiment, je pense qu'on a un rôle en tant que critique de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que avec les antennes de critique et de voir les ennemis se profiler avant même que la guerre commence et de les épingler, ça c'est important.
Les ennemis qui fabriquent des images qui sont toxiques ou peu exigeantes ou présentées par le reste de la profession comme révolutionnaires alors qu'en fait elles le sont pas du tout, que ce sont des images publicitaires, enfin ce genre de choses.
C'est un petit peu comme ce film. Alors c'est un film qui a existé en trois fois, hein, qui est très connu dans l'histoire du cinéma américain, c'est le principe du body snatcher, donc qui est traduit par les profanateurs de sépulture. C'est un film de Don Siegel au début dans les années 50, puis il y a une version d'Abel Ferrara et de Philip Kaufman. Et donc on ne reconnaît pas toujours ses ennemis, hein, parce que le principe du film, c'est des extraterrestres qui prennent forme humaine et qu'on ne peut pas discerner. Et parfois, c'est ça un petit peu aussi avec les films, c'est-à-dire qu'on pourrait passer à côté d'un ennemi parce qu'il a tous les atours du film sympathique, aimable, séduisant. Et je pense que c'est aux critiques d'être comme les héros de ces films-là, c'est-à-dire de réussir à discerner tout d'un coup, sous cette apparente normalité ou bienveillance, les films dangereux.
Doctor, will you tell these fools I'm not crazy? Make them listen to me before it's too late! Listen to me. Please, listen.
If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you!
Et c'est vrai qu'il y avait cette idée, alors qu'il pouvait déjà sonner, que les cahiers du cinéma, c'est le lieu où on défend le cinéma d'auteur. Donc tout ce qui se présente comme cinéma d'auteur est bon et mérite d'être défendu. Alors c'est vraiment pas du tout le point de vue qu'on a adopté ces 10 dernières années. Au contraire, moi je me sens très à l'aise avec la rhétorique guerrière et avec l'idée de porter le fer et le feu là où il le faut, à partir du moment où c'est fait au nom de quelque chose qui est l'amour des films, qui est l'amour du cinéma. C'est aussi pour protéger le cinéma de ses ennemis de l'intérieur. C'est aussi pour, à chaque fois qu'on dit du mal d'un film, on dit du bien de tout ce qu'on aime implicitement.
Dans ce vaste article sur le rôle de la critique, vous citez l'autrice critique et poétesse française Annie Lebrun, qui en 2018 observait « Le processus de neutralisation est désormais à l'œuvre pour faire accepter chaque chose et son contraire, sans jamais manquer d'éradiquer toute trace de négativité. » Vous poursuivez, vous, l'équipe des cahiers, ainsi, il faudrait être positif, respecter toutes les œuvres et tous les publics. Or, cette positivité, béate ou hypocrite, détruit nos attentes. Il faut mettre autant d'ardeur dans l'enthousiasme que dans la colère. Non, pas de calme, jamais. Et vous citez également, un peu plus tôt dans le dossier, « Qui ne peut prendre parti doit se taire ». Une citation du philosophe et critique Walter Benjamin en 1928. Comment canaliser sa colère ?
Ce que dit Annie Lebrun, c'est aussi une manière d'acter la fin de la critique au niveau de l'art contemporain, où tout le monde a l'air très content, même quand on fait de la merde. La canalisation de la colère, je ne suis pas sûr qu'elle soit nécessaire à partir du moment où elle est sincère, où elle n'est pas feinte, où elle ne relève pas de la posture.
Où elle n'est pas gratuite.
Où elle n'est pas gratuite, où elle est née, elle est faite au nom de quelque chose, au nom de principe, au nom d'un amour du cinéma et au nom d'idées. Et à ce moment-là, tout est permis. Et ces deux jambes, il ne faut pas devenir unijambiste. Et comme on l'entend parfois, parce que c'est une rumeur de l'heure du temps, qui consiste à dire non, mais ne parlez que des films que vous aimez. On le voit aussi. Stéphane avait fait un édito il y a assez longtemps maintenant sur le sujet où on a l'impression que tous les films sont bons. On vous ouvrez la presse, vous avez 7-8 chefs-d'œuvre par semaine. Non, c'est pas vrai. Dans une semaine, s'il y a un chef-d'œuvre, c'est l'événement. Par an, il y a 3 chefs-d'œuvre, il y a 40 bons films et il y a 500 merdes. Voilà. Donc on peut le dire, c'est pas cracher dans la soupe que de le dire, au contraire.
Et c'est inscrit de toute façon dans le ressenti du spectateur.
Bien sûr,
ailleurs.
Faut pas le prendre pour un imbécile non plus. Voilà. Pour marcher droit, il faut marcher vraiment sur deux jambes et que l'intensité de la colère, si elle est symétrique à l'ardeur de l'amour pour le cinéma, eh bien tout va bien.
Ok. Let me say this. If I lost my wife, and the next day a little bird landed on my windowsill, looked me right in the eye, and in plain English said, "Sean, it's me, Anna. I'm back." Well, what could I say? I guess I'd believe him, or I'd want to. I'd be stuck with a bird. But other than that, no. I'm a man of science. I just don't believe that mumbo jumbo. Now that's going to have to be the last question. I need to go running before I head home.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Thank you. Cette musique est signée du français Alexandre Desplat. Elle ouvrait le film Birth, ce superbe et curieux mélodrame fantastique écrit par Jean-Claude Carrière avec le metteur en scène anglais Jonathan Glazer, encore lui. Une musique sélectionnée par mes invités Jean-Philippe Tessé et Paola Reimann, ex-critiques des Cahiers du cinéma.
Putain, où sont mes lunettes ? J'ai encore perdu mes lunettes ? Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi ?
Autre point soulevé dans ce numéro que vous avez publié en avril sur le rôle et les devoirs de la critique, celui de l'apparition d'un nouveau type d'écriture au nom anglais, parce que ça fait bien, le storytelling. Le storytelling est la peste de notre époque, écrivez-vous. Ces reportages divergondés, ces entretiens reformulés, c'est l'endormissement des enfants le soir, c'est la neutralisation des idées, tout ce qui empêche de dialectiser, de dialoguer. Alors c'est la position des magazines du groupe Sopress, Film, Society, pas de critiques, mais des histoires. Pour résumer, tel que vous le faites dans ce numéro, le refus de dire du mal fait naître une cinéphilie molle. Et plus loin, le journalisme culturel, qui va souvent de pair avec l'idée du storytelling, tue la critique. Le journaliste culturel surfe sur les vagues, sur les cultures du moment. Il mâchouille des idées lancées par d'autres. Il rumine, il veut plaire, il courtise. Son but est de devenir animateur de table ronde.
Tout est dit, hein. Non, je ne sais pas.
Et on l'a vu ces dernières années, la montée en puissance du storytelling, qui est quelque chose qui est à la fois qui est une écriture portée par des journalistes sur des puissants, mais qui est aussi un outil manipulé par les puissants eux-mêmes. Et donc le fait même de cet effet miroir entre l'outil qui est manipulé par les puissants, les dominants, et le fait qu'il y ait des journalistes au service de ça, qui reprennent ces outils-là pour effectivement endormir les enfants, puisqu'on est dans une période aussi qui porte au nu la régression puérile, c'est extrêmement inquiétant. Et contre ça aussi, la critique peut s'interposer.
Dernier extrait, très court, de ce passionnant dossier que vous pouvez, semble-t-il, encore commander en ligne sur le site des Cahiers. Le texte est un long chemin de mots pour se sentir moins seul.
Oui, je pense que ce qui nous a énormément plu, malgré toutes les difficultés inhérentes à l'exercice, pendant toutes ces années où Stéphane Delorme était rédacteur en chef et on l'a, toute une équipe on l'a accompagné, c'est aussi l'idée du collectif d'être ensemble et de partager quelque chose. Et ça, c'est ce que je disais au début, ça transcende aussi l'histoire des cahiers et les époques. Hein. On est peu de choses, hein, finalement, on passe, voilà, on est passé, d'autres passeront, d'autres sont passés avant, mais il y a quelque chose de commun entre nous tous. Je pense que je sais que c'est aussi toute une mythologie du critique solitaire. Et je pense que certains le sont plus que d'autres. Moi, je suis assez par tempérament, mais en même temps, éprouver le rapport à l'autre via l'objet qui était une revue de cinéma. Moi, j'ai trouvé ça passionnant.
Et il me semble que le passage que vous avez cité contient aussi l'idée du lecteur à qui on s'adresse et de la communauté qu'on veut faire avec ce lecteur et à qui on s'adresse finalement pour se sentir moins seul. Et moi, ce qui m'a toujours semblé important et au cahier tel que je les ai connus énormément, c'est de pas s'adresser à soi ou au même que soi, c'est-à-dire s'adresser à n'importe qui et de pas avoir ce lecteur type qu'on pourrait imaginer qui aurait les mêmes goûts que nous, qui serait d'accord avec nous, et donc de s'adresser vraiment à n'importe qui.
Parlons de communauté, 4 jours avant le confinement, vous avez organisé une rencontre entre vos lecteurs et l'équipe des missionnaires des Cahiers du cinéma dans un ciné du 5e arrondissement de Paris, la Clé Revival, 34 rue d'Aubenton, qui, sous la menace d'une expulsion, continue de projeter des films le temps d'une occupation pacifique et citoyenne. Alors, j'étais dans la salle et après un débat pour expliquer les raisons de votre départ collégial, vous avez montré un film super méconnu, Over the Edge, en français Violent sur la ville, réalisé en 1979 par un certain Jonathan Kaplan. Pourriez-vous nous parler de ce film ? Parce que j'incite vraiment nos auditeurs à le voir le plus vite possible.
C'est un film incroyable dans lequel, évidemment, on a pu se reconnaître un petit peu, parce qu'il faut que les auditeurs de cette émission le voient.
Welcome to New Granada, where people come to escape city life. It has safe streets, clean air, good schools. It's a perfectly planned community.
Ces jeunes, complètement, ils n'ont rien à faire, la ville n'est pas conçue pour eux, l'architecture de la ville n'est pas faite pour eux.
C'est des ados d'une toute petite ville américaine.
But something strange is happening. something that wasn't part of the plan.
Et ils se retrouvent dans cette, je sais pas comment on pourrait dire, ils ont une sorte
une salle de jeunes, je sais pas comment
une
dire.
Une salle de jeunes, voilà, une MJC,
paumée au beau milieu d'une grande route.
Voilà. Et des promoteurs immobiliers veulent détruire cette MJC parce que, je vais le dire un peu vulgairement, mais ils foutent la merde, ils foutent le bordel dans la ville, quoi. Et du coup, ils veulent détruire cette MJC pour pacifier la ville. Et c'était tout ce qui leur restait à ces jeunes-là. Et du coup, ils se révoltent. Et le film est magnifique parce que Kaplan prend vraiment d'emblée le parti de cette jeunesse. Et il est toujours avec eux. Et ça, c'est très beau. C'est
dead kid. I don't know how many of us are willing to admit just how deep in trouble some of the kids in this city are. Tension is rising.
Et d'ailleurs, c'était un film qui avait été détruit à l'époque par les cahiers.
Par Olivier Assayas, et vous avez ouvert la séance en lisant la chronique de l'époque. Oui. Vous disiez vraiment, le film est absolument lamentable. Enfin, j'ai plus les mots.
Oui, oui, le film était imbécile, je crois. Enfin, voilà, comme quoi, on a écrit aussi plein de bêtises au cahier. On a écrit des choses merveilleuses. Et Olivier Assayas a écrit des choses très intéressantes souvent, mais voilà, il a écrit aussi des bêtises. Et en fait, ce qui nous plaisait aussi, bien sûr, c'est que c'est la beauté du film aussi, c'est qu'il prend le parti de la jeunesse. Et ça, je pense que ça a été quelque chose de très important pour nous. Parce que quand Paola disait qu'on s'adresse à quelqu'un, idéalement, le lecteur idéal des cahiers, il a 16 ans, il a 17 ans, il vient d'être ébloui, il vient d'être submergé, il vient d'avoir senti la vague déferler sur lui parce qu'il sort d'un film et que ça a changé sa vie. Et c'est à lui qu'on a envie de s'adresser en particulier. Donc c'est vrai que ce sentiment ce thème de la jeunesse, il a été important. On a fait des numéros avec des lycéens, on a fait des numéros avec des étudiants. On a cherché aussi beaucoup le jeune cinéma. On s'est beaucoup interrogé sur le problème aussi du fait qu'aujourd'hui, un jeune cinéaste, c'est quelqu'un qui a 45 ans. Ça, c'est quand même une aberration. Et donc, du coup, ce goût de la jeunesse, on a voulu le film était choisi aussi pour ça. Et dans le film, ce qui est formidable, c'est que les enfants vont enfermer les parents dans le lycée et les assiéger comme ça. Donc, c'est cette guerre qui est menée au nom de la jeunesse, évidemment, c'est quelque chose qui nous parlait beaucoup.
I can assure you, everything is under control. They were old enough to know better, but too young to care. And now this town is over the edge.
Il y a un grand geste de mise à feu, vraiment d'incendie de cette jeunesse vis-à-vis de tout ce que représente l'État, l'autorité, les règles de la société, etc. Et foutre le feu, résister à toute forme d'injonction, dénoncer le conformisme d'une petite communauté, c'était aussi pour votre équipe une jolie manière de partir à travers cette séance.
Oui, oui, bien sûr, il y avait une malice à mettre ce film-là en avant, pour toutes les raisons qu'on a dites, et puis aussi pour le goût du feu. Et d'ailleurs, le numéro d'avril se termine par les scènes de feu tirées
de différents films à travers les époques. Quels sont vos projets d'écriture à l'un et à l'autre, vos projets journalistiques, et s'il n'est pas trop tôt pour en parler, les projets de l'équipe des Cahiers du cinéma qui est partie?
C'est la question qu'on nous pose, à laquelle on. Enfin, je sais que Stéphane et moi, on n'a pas forcément très envie d'y répondre tout de suite, parce que c'est quand même tout frais. Que pour nous, ce départ a quand même été extrêmement violent et c'était un déchirement, parce qu'on y a quand même consacré de très longues années de notre vie, énormément d'énergie, beaucoup de nuits blanches, et avec une grande joie. Donc, c'était quand même. Ça nous a quand même déchiré le cœur de devoir partir, mais en même temps, voilà, c'était la seule solution qui nous semblait la. En tout cas, c'est la solution qui nous semblait la bonne. Et du coup, on a envie un peu de se reposer aussi, c'est tout frais, d'attendre, et puis de voir. Comment les envies reviennent, si elles reviennent et sous quelle forme.
Est-ce que vous envisagez de créer un autre espace de parole, une autre revue ensemble pour reprendre la parole sur le cinéma?
C'est la même chose. Enfin, c'est quelque chose. On ne veut pas trop y penser maintenant. C'est trop frais et on verra plus tard.
Oui, mais en tout cas, je suis d'accord. Mais en tout cas, il y a un espace à recréer du coup qui, je pense, s'est perdu et ça, c'est important que cette voix-là existe aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Coupé, c'est dans la boîte. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabeau. Merci à lui. Une dernière histoire, si vous permettez, signée par l'un des collègues de Jean-Philippe et Paola, Stéphane de Ménildo. Dans le film La 36e chambre de Shaolin de Liu Chalang en 1978, le jeune disciple Sante
passe de chambre en chambre, chacune contenant un entraînement spécifique. Il devient danseur dans la chambre des jambes, travaillant l'équilibre et le saut. Dans une autre, il doit accorder ses bras et ses mains. Il apprend à concentrer sa force dans des mouvements minimalistes, mais s'exerce aussi à d'amples chorégraphies de bâtons et d'épées. L'entraînement du guerrier est une construction et une leçon d'anatomie. Dans Retour à la 36e chambre, en 1980, un garçon fougueux s'introduit dans le temple sous une fausse identité. Sentant le potentiel du jeune homme, le maître l'oblige jour après jour, à construire et déconstruire un échafaudage de bambou, sans qu'il s'en doute, chacun de ses gestes est l'apprentissage des mouvements du kung-fu, terme dont le sens premier est le perfectionnement et la maîtrise d'un métier. L'entraînement du guerrier est une leçon de patience. Il en va de même pour l'analyse filmique et bien sûr pour l'écriture.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.